A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Je vous demande un peu, c'est quoi une vie? Quand je regarde celle de la petite Janine, moi je vois d'abord une vie princière, puis une vie patraque de galérienne, puis une vie de rayonnement international, de chanteuse star à la voix guerrière altière, qui finalement est descendue de son cheval pour mener aujourd'hui une autre bataille. La princesse surgit du lac Tanganyika a sa petite idée aujourd'hui sur ce que doit être son pays, le Burundi. Le président Nkurunziza étant depuis des années « wanted » dans le cœur de la petite Janine, devenue Kate Janine. Bonjour princesse.
Bonjour.
Vous êtes enveloppée magnifiquement d'une aura d'ambassadrice aujourd'hui. Engagée contre la dictature du Burundi et pour la condition des femmes sur le continent, en zone de guerre, on en reparlera bien sûr. Mais je suis sûre que la petite Janine est toujours vivante. On vous appelait vraiment comme ça, la petite Janine?
Non, on m'appelait Kate Janine.
Vous étiez minuscule?
Et j'étais pas minuscule, j'étais la cadette. Et comme mon père s'appelait Jean, en fait, je suis une des premières Janines du Burundi. Je suis la plus vieille Janine du Burundi. C'était très à la mode, enfin à la mode, c'est comme un nouveau prénom au lieu de m'appeler Jeanne. Il m'a appelée Janine. Mais elle est toujours là, la petite.
J'en suis sûre.
Oui, elle
je
est
la
là.
Sens.
Elle est là.
Quelle est la toute première image que vous conservez de cette enfance burundaise?
Ouh, moi j'ai une enfance magnifique, c'est ça qui m'a construite. En fait, j'ai l'habitude de dire que mes parents m'ont éduquée, moi je me suis élevée.
Est-ce que ça pourrait être la bande-son de votre enfance, ça, Kadja?
Absolument, absolument, c'est la bande-son de mon enfance. Il y a les enfants qui jouent de Muduri. Muduri qui est une espèce de calebasse avec une tige à une corde. Et c'est mon enfance parce que quand j'étais petite, il y avait un monsieur, enfin qui me semblait très vieux parce que j'étais très petite. Tous les matins, il passait, il venait jouer de Muduri. Il s'appelait le Tondi, il était aveugle. Et ça, c'est mon enfance. Mais il me semble avoir entendu aussi des hippopotames, non?
Ben oui.
Eh bien, ça, ce sont les hippos du Tanganyika. Mm-hmm. Tous les soirs, la promenade, c'est aller voir les hippos qui sortent du Tanganyika et qui traversaient la route pour aller dans les grandes herbes juste en face du lac. Mais malheureusement, maintenant, on a construit partout. Les hippopotames sont plus loin. Je ne sais pas où ils sont.
Alors, il y avait les hippos et puis il y avait les meumeux.
Les meumeux, mais les meumeux. Vous savez que le Burundi, on l'appelle le pays de la vache et du tambour. La vache est presque aussi sacrée qu'en Inde. Chez nous, la vache, c'est toute la richesse. Enfin, quelqu'un qui a une vache, il a tout. Et moi, quand j'étais petite, on avait des vaches chez nous. La plus belle s'appelait Milakiri. Elle était sublime. Les vaches chez nous, ça, elles ont des cornes magnifiques. Elles sont comme des reines. Donc oui, très donc, important la vache.
L'enfance s'est bien passée par là. Mais pourquoi vous dites, Kate Janine, je vous appelais Kadja donc, hein, pourquoi vous dites que vous n'avez pas eu 20 ans?
Ben, c'était compliqué parce qu'en fait, je suis partie au Zaïre de l'époque, en 75, pour étudier, donc j'avais 16 ans. Et là, j'ai rencontré mon futur mari. Et lui, il venait aussi d'arriver à Kinshasa, c'était un rendez-vous. Et nous sommes partis tous les deux vivre dans la forêt, chez les pygmées. Et c'est là-bas que j'étais enceinte aussi. Et ça doit faire du bien parce que je n'ai eu ma première visite prénatale qu'à 7 mois, parce que l'hôpital était trop loin. Et donc j'avais 19 ans quand j'ai accouché. Et nous sommes repartis de Zaïre pour revenir en Europe, pour rechercher un travail, je ne sais pas. Nous, on voulait vivre loin, dans les villages, quoi. En 1980, nous sommes arrivés en Belgique. Et là, on m'a envoyé ma maman qui était malade. On l'a envoyée du Burundi et ils n'ont pas pu la soigner. Donc, elle a eu un cancer, elle est morte. En 81, l'année d'après, c'est mon mari qui a eu un cancer et qui est mort. En 82, c'était ma belle-mère, qui était ma seconde maman, qui a eu un cancer, qui est morte. Donc j'avais 23 ans, j'étais veuve, orpheline, dans un pays que je ne connaissais pas, sans argent, et avec un petit garçon qui avait à peine 3 ans. Moi, je crois que ce qui m'a sauvée, c'est de nouveau ce que mes parents avaient mis en moi, et surtout ma jeunesse.
comme fille de.
Qui était votre père?
Mon père s'appelait Jean Tiloam. Il est mort quand j'avais 12 ans, d'un cancer, décidément. Mon père était politicien. Il était de ceux qui ont fait l'indépendance du Burundi. Mais pour moi, c'était pas tout ça. Mon père était quelqu'un de très croyant, donc il allait à l'église tous les jours. Enfin, il nous envoyait à l'église tous les matins sans avoir mangé avant le petit déjeuner. Donc mon père, pour moi, était quelqu'un de merveilleux, qui ne criait jamais. Quand il avait quelque chose à vous dire, il vous asseyait à côté de lui et vous disait à quel point vous lui faisiez de la peine. Et vous vous sentiez tellement petit et mauvais que vous ne recommenciez jamais. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai de mon père en réalité. Je ne peux pas raconter politiquement ce qu'il a fait puisque j'avais 12 ans.
Mais vous le savez, en tout cas quand il sortait de la maison, il a été l'ancien ministre de l'Intérieur.
Il a été ministre des télécoms. Enfin moi je ne l'ai connu que ministre en gros.
Et vous vous souvenez du roi Mwambutsa IV?
Eh bien je me souviens de lui passant dans sa grande voiture américaine décapotable qu'il conduisait lui-même. Mais je me souviens surtout de son fils. Ntare V, qui lui avait un poignet magnifique et une belle gourmette en or.
Ah oui, vous aviez un œil caméra quand même.
J'avais un œil à la hauteur, j'avais une caméra à la hauteur de son poignet.
Ouais. Sans que ça fâche personne, est-ce qu'on peut dire que vous êtes issu de l'aristocratie burundaise sans préciser Tutsi ou Hutu?
Mes grands-pères, tous les deux, étaient des grands chefs, mais on n'était pas du tout, ni des comtes, ni des vicomtes, ni des barons, Mais je pense que je viens d'une bonne famille, oui.
Alors, votre histoire est traversée par la grande histoire. Petite parenthèse un peu historique. Le 18 septembre 1961 est élu aux élections législatives le prince Roi Gazor, qui devient premier ministre du Burundi. Le 13 octobre, il est assassiné dans un restaurant près de ce fameux lac Tanganyika.
Mon père était là.
Et votre père était là, effectivement. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui librement si votre père était contre la monarchie?
Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est mort quand j'avais... Sans doute, oui. Mais même le prince, lui, voulait arrêter la... Le prince Roi Gassour, il voulait arrêter la monarchie, malgré qu'il était prince. Donc... Oui, enfin, j'imagine. Franchement, j'en sais rien du tout.
Vous n'avez jamais ouvert ce dossier?
Non, parce que quand vous descendez d'un homme qui a fait de la politique, vous avez toujours ceux qui ont des belles choses à dire sur lui, et d'autres qui sont pour et d'autres qui sont contre.
Justement, c'est pas mal de rétablir la vérité si jamais il y en a une à rétablir.
C'est très difficile. Non, il n'y a pas à le défendre. Je pense que globalement, ça va. Et donc, j'ai lu des livres où on disait des très belles choses sur mon père, c'était un grand homme, et puis d'autres qui étaient contre, qui disaient qu'il était pro-Tutsi. Enfin, bref. Donc pour moi, tout ça, c'est trop compliqué.
Et qu'il était impliqué éventuellement dans cet assassinat.
Qu'il était peut-être impliqué dans... Je n'en sais rien, franchement, je ne le crois pas, en tout cas. Mais voilà, je dis la politique, c'est ça. C'est pour ça que ce n'est pas un domaine qui m'attire particulièrement.
En tout cas, pour vous, évidemment, petite Kadjanine, il y a eu avant et après la mort de votre père. Qu'est-ce que ça change, sa disparition, pour vous?
Ça me change ma vie. On quitte les beaux quartiers pour nous établir dans les quartiers. Et là, ça change toute ma vie, en bien, en plus, en
bien.
Mieux. Ben, c'est-à-dire que j'ai découvert un nouveau monde, j'ai appris le Swahili, je me suis fait des nouveaux copains.
Vous ne parliez pas le Swahili avant?
Non, il faut rentrer dans les quartiers pour connaître ces langues-là.
Donc vous parliez quoi?
Kirundi et français. Parce que j'ai étudié à l'école, la seule école internationale qu'il y avait à cette époque-là, c'était l'école belge, où il y avait tous les filles et les fils d'eux, plus tous les expatriés. Et mon univers s'est élargi, en fait. Enfin, c'était merveilleux.
À quel moment vous atterrissez chez les Bonnes Sœurs?
L'école primaire, c'était déjà chez les Bonnes Sœurs. Nous étudions tous chez les Bonnes Sœurs. Les garçons étaient chez les Jésuites et les filles chez les Dames de Marie.
Mais tout le monde ne se faisait pas virer de chez les Bonnes Sœurs,
Moi, je me faisais virer souvent parce que... Comment dire ça? Je ne suis pas une rebelle de nature, mais quand ce n'est pas juste, c'est pas juste. Ça m'est égal. On peut me suspendre, me pendre, me crucifier. Je ne changerai pas d'avis.
Par exemple,
alors je vais vous dire, c'est très très bête. Vous allez comprendre pourquoi on m'a virée de chez les Bonnes Sœurs. Parce qu'on était interdit d'aller acheter des beignets en bas à la barrière pour manger quelque chose de bon. On mangeait très mal en pension. Et je me suis fait attraper trois fois. Et trois fois, c'était l'exclusion de la pension.
Vous avez eu un petit passage aussi par Air Burundi?
Eh oui, j'étais hôtesse de l'air à 16 ans. Il s'est avéré que le Burundi avait reçu des caravelles. Donc la flotte d'Air Burundi, ça devenait imposante. Et les hôtesses de l'air étaient parties en France pour apprendre à servir sur le caravelle. Et donc moi, j'ai remplacé sur l'avion mythique qui était un DC-3. Je partais jusqu'à Kigali ou jusqu'à Goma ou jusqu'à Bukavu.
Une vie déjà bien remplie.
À 16 ans, c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. On va se poser sur l'année 75 où vous débarquez à Kin. Donc à ce moment-là, c'est le Zaïre, ancienne colonie belge, hein, comme le Burundi. Et autrement dit, c'est la patrie du léopard du Zaïre, l'incroyable maréchal Mobutu qui en impose, évidemment, ne serait-ce qu'aux Nations Unies. En 73, on va le retrouver. Voici un extrait de cette fameuse allocution qui a rejoint la liste des plus grands discours du XXe siècle. C'est parti pour une petite leçon de sémantique.
Le terme de tiers-monde s'accompagne d'une idée de mépris. Et par conséquent, cette appellation est surannée. Pour les gens qui l'ont inventée, il existe des pays qui forment le bloc de ce qu'on appelle l'Ouest et les autres qui forment le club de ce qu'on appelle l'Est. En dehors de ceux-là, on met tous les autres dans le même panier sous le vocable de tiers-monde. Le mépris qu'éprouvent certains pays colonialistes ne s'arrête pas là. Car ils avaient commencé par appeler les pays dits du tiers-monde pays arriérés. Les auteurs eux-mêmes, trouvant ce terme trop fort, ont cru l'améliorer en lui substituant celui de pays sous-développés. Et maintenant, soi-disant pour éviter des susceptibilités diplomatiques, on nous appelle pays en voie de développement. Au Zaïre, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air? Faut-il appeler pays sous-développés ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques?
Mobutu Sese Seko Kuku Pendu Wazabanga, c'est-à-dire Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Donc Mobutu pour un sol majeur qui africanise son nom. Mobutu qui tense dans ce discours les puissances coloniales 40 ans après Kadjanine. Son raisonnement tient toujours ?
Hélas, oui. Mais Mobutu, pour moi, c'est un grand souvenir parce que quand j'étais petite, au Burundi, on connaissait les discours de Mobutu par cœur. Discours fleuve qu'il faisait au Congo, hein, et au Zaïre à l'époque. Vous savez, il y a des figures comme ça qui vous forgent. Hein. Moi, Angela Davis, je ne comprenais pas tout ça. Hein. Angela Davis, ça voulait dire quelque chose pour moi. Martin Luther King, ça voulait dire quelque chose pour
moi. À quel moment ?
Dans les années, j'avais 7 ans, 8 ans.
Ah oui, si jeune.
Oui, tout petit. Oui, parce qu'on levait le poing, Black Power, etc. Je ne comprenais pas tout, mais je savais qu'il y avait des choses de justice ou d'injustice dans tout ça. Donc, des discours de Mobutu, pareil, cette zaïrinisation. On changeait les noms, etc. Il y avait un sens. Je comprenais que les Noirs n'étaient pas très respectés dans mon esprit d'enfant. Et voilà.
Mais l'adulte aujourd'hui, parce que d'un côté, c'est un dirigeant africain qui effectivement dit ses quatre vérités aux anciens colonisateurs. Et c'est assez libérateur d'entendre ça, effectivement. Mais de l'autre, c'était un dictateur tortionnaire avec son propre peuple.
Mais tous ceux qui ont fait rêver l'Afrique... Mais ils ont tous mal fini en dictateur.
Et vous le comprenez ou pas ?
Je ne le comprends pas, ça me déçoit. Ça me déçoit et ça me fait mal parce que à ce moment-là, toute l'Afrique pouvait s'unir, devenir cette panafrique qui parlerait donc d'une grande et seule voix. Et c'était possible à ce moment-là parce que l'ennemi, entre guillemets, était un. C'était le colon. Partout, sur toute l'Afrique. Donc c'était une guerre de libération, c'était un mouvement de libération. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans des guerres ethniques. Entre nous, c'est-à-dire ceux du Nord contre ceux du Sud, ceux des Hutus contre les Tutsis, etc. Et donc ça devient plus compliqué pour nous de nous réunir. Et moi, je trouve que ces hommes-là, ils sont à l'origine peut-être des indépendances, mais ils sont aussi à l'origine de la ruine du continent et de la décrédibilisation du continent. C'est beau. Du continent. Et moi, ça me fâche qu'on continue à les mettre très haut parce que je ne suis pas d'accord. C'est un peu comme si vous disiez, ah, cette femme, elle a quitté son mari parce qu'il la battait. Mais quel beau couple c'était il y a 20 ans. Quand ils se sont mariés, ils étaient si beaux.
Ouais, l'image est pas mal.
Ils étaient merveilleux. Mais il y a une nouvelle génération qui arrive.
En tout cas, votre petit refrain à vous, vous le trouvez rapidement, à 16 ans, en devenant une chanteuse. Je ne sais pas si vous étiez déjà une chanteuse guerrière et altière, celle que vous êtes devenue après, celle qu'on aime d'ailleurs. Alors moi, j'ai eu un cas de conscience. Comment choisir un de vos titres, Kate Janine ? J'ai craqué à nouveau pour votre prise de Free de Stevie Wonder, parce que Stevie Wonder en Swahili, je trouve que ça vaut le détour. Pourquoi ce choix, cela dit, de cette reprise ?
D'abord parce que je suis une fan de Stevie et c'est surtout, c'était une façon pour moi de pouvoir parler de ce que j'appelle la vraie liberté en fait. Parce que la vraie aliénation aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la cupidité. Et ce titre Free, j'ai transformé en Sina Mal et Sina Deni. Je n'ai ni fortune ni dette, je suis libre.
Janine, pendant 3 minutes en sol majeur, de l'Afrique voyageuse, baladeuse, chez notre princesse qui cherche son monde entre le berceau de l'humanité et la vieille Europe.
Comment faites-vous découvrir à vos amis vos origines?
Comment faire découvrir les origines? Il suffit de me regarder déjà, on se doute bien que je ne suis pas d'ici.
C'est pas si simple, hein?
Non, mais écoutez, je me pose jamais ce genre de questions. Je pense que les choses se font naturellement. Je pense qu'à force de voyager, de rencontrer des gens du monde entier, on se pose même plus la question. On vient du monde entier. Parce que l'essentiel, c'est de trouver des gens qui vous ressemblent. Et ça, on en trouve, que ce soit en Amérique du Sud, même au Vietnam, j'en ai trouvé des gens qui me ressemblent un peu. Mmh.
Vous êtes du monde entier aujourd'hui, Kate Janine, mais au départ, on peut dire que vous êtes au carrefour de au moins 3 cultures.
La troisième, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais...
Française, burundaise, flamande ?
Non, flamande, j'aimerais bien vous voir parler le flamand. Non. Ce qu'il y a, c'est que quand j'étais petite, à 5 ans, j'ai intégré l'école belge, qui était l'école internationale. Il y avait toutes les nationalités, là. Donc, pour moi, à la rigueur, il n'y avait pas de blanc, vraiment. Il n'y avait pas de noir, parce que toutes mes petites copines étaient blanches depuis l'âge de 5 ans. Donc, enfin, parmi mes copines, il y avait des blanches aussi. Donc, pour moi, on a grandi ensemble. Donc, ce n'était pas une culture différente. On était tous dans la même classe. Je pense qu'il faut laisser les choses se faire. Et moi, j'ai eu cette chance de commencer l'école comme ça, dans un mélange. Mais rien que de quitter Bujumbura pour aller à Kinshasa et puis partir dans la forêt de l'Ituri, là aussi, c'était déjà un métissage, une culture, un autre monde. Parce qu'aller vivre dans la forêt...
Mais ça, cet autre monde, ça vous porte?
Ah, ça me porte. C'est parce
qu'est-ce
que j'ai
qui se passait
beaucoup
dans ce village-là?
C'est même pas un village. C'est un petit lodge posé au milieu de la forêt, et à quelques centaines de mètres, il n'y a que les pygmées. Les Congolais, les Aïrois, ils étaient beaucoup plus loin. Donc, ça vous change tout, parce que vous habitez avec des gens qui n'ont rien et qui n'ont besoin de rien, en fait. Leurs maisons sont faites de feuillage. Dès qu'il y a un décès dans la petite communauté, pouf, ils déménagent 25 mètres plus loin, ils recoupent des branches, ils refont une maison. Et ce sont des gens qui vivent en harmonie avec vraiment la nature. J'y arriverai pas, moi. Je pourrais pas y arriver, mais c'est quelque chose qui vous apprend que posséder ne veut rien dire.
Mais vous avez une double vie aujourd'hui, enfin en tout bien tout honneur, hein, au bras de Monsieur X, donc ce fameux pilote automobile belge. D'ailleurs, vous vivez un couple mixte.
Et ça continue.
Et ça continue. Vous propagez la parole du métissage sans discours.
Non, je ne fais pas exprès. J'ai eu des amoureux qui n'étaient pas d'une autre couleur. Parce qu'en fait, le métissage, c'est déjà quand une Burundaise épouse un Togolais. C'est déjà un autre monde, peut-être même plus complexe que d'épouser un blanc.
Oui, vous diriez ça?
Oui, parce que les blancs sont faciles à lire. Et vous savez pourquoi? Parce que partout ils sont allés, ils ont voulu changer les gens. Ils se sont montrés comme ils sont. Donc on les connaît. Eux ne nous connaissent pas, mais tout le monde les connaît. Donc ils sont faciles à lire. Nous, il faut nous deviner, ou il faut du temps pour qu'on sache qui on est.
Enfin, vous avez, je le disais, une double vie entre la principauté de Monaco, où vous vivez peut-être, je ne sais pas, 6 mois de l'année, et puis un village africain qui restera secret et mystérieux. C'est-à-dire que vous êtes entre un monde de casino et de princesse, quand même, d'un côté, et puis, de l'autre côté, un principe de réalité.
Mais c'est-à-dire que déjà, je voudrais rectifier quelque chose à propos de Monaco. Le Monaco qui est dans les magazines, c'est pas le vrai Monaco de tous les jours.
C'est quel Monaco vivez-vous?
Moi, le Monaco. Alors d'abord, je le vis en effet avec ma princesse, parce que la princesse Caroline, c'est ma grande sœur, c'est ma grande amie. Mais elle n'a pas cette vie-là qu'on lui prête, je veux dire. Et puis alors, il y a le Monaco qu'on voit dans les magazines. De ces gens-là que moi je ne connais pas, hein. Ces stars qui habitent à Monaco, moi je ne les connais pas. Je connais le petit marché de la Condamine, j'ai été marraine de l'aumônerie des jeunes parce que je suis croyante, donc je connais bien les monégasques, les vrais, les familles, les pépés, les mémés. Et de l'autre côté, évidemment, le village, là, c'est. Quand vous arrivez là-bas, ben, il y a tout qui change, quoi.
C'est quoi votre quotidien dans ce village?
Bon, moi, je ne fais pas grand-chose. Hein. Je suis entre deux petits villages. Donc, j'appartiens à deux villages. J'ai deux noms. Un nom d'Iré d'un côté et Diara de l'autre. Et moi, je suis au jour le jour ce qui se passe. S'il y a eu assez de pluie, s'il n'y a pas assez de pluie, s'il y a la récolte, etc. Puis les petits projets qu'on met ensemble.
Par exemple, quel est le dernier projet que vous avez mis en place?
Vous savez, dans les villages, il y a toujours une espèce de gros trou, de cratère. C'est là où ils vont chercher la terre pour le banco, pour refaire les maisons. Au fur et à mesure du temps, ça devient un énorme cratère. Les djirés sont des pêcheurs, nous sommes au bord du fleuve. Les djirés sont des pêcheurs, ils ont décidé de faire de la pisciculture. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé que les poissons devenaient plus rares, plus petits, et ils ont décidé de faire de ces cratères un bassin. Et alors moi, ma contribution, elle est minime. Hein. Ils voulaient juste de grillage pour entourer le bassin. Tout le reste, ils ont fait tout seul.
Alors, je sais que vous ne chantez plus aujourd'hui que dans votre salle de bain, peut-être, ou dans le soir profond de la forêt africaine. Mais comment vous dire, si on allumait un petit feu en sol majeur pour vous entendre une petite minute a cappella, est-ce que c'est possible?
Bien sûr, c'est possible. Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait 20 ans que je n'ai pas chanté. Je vais vous chanter une berceuse.
Allons-y.
la berceuse de mon enfance et de mon enfant et de nos enfants. Je ne sais pas si elle se chante encore aujourd'hui. Alors, comment ça allait encore ? Maman, maman, umutima okukwanga, uri kure nk'ukwezi. Mama, umutima okugukunda, uri hafi nk'irembo. Mama, ihori horere mwana, mama aragukunda. Mama.
Pourquoi vous avez arrêté votre carrière musicale, Kejanine?
Je pense que c'est à ce moment-là que le marketing a commencé à prendre le pas sur l'artistique. Enfin, où le directeur de marketing avait plus de puissance que le directeur artistique. Où les maisons du disque commençaient à dire aux artistes de leur donner des directions, c'est-à-dire vous proposer des duos, vous savez, commencer à un petit peu se mêler de la création. Et moi, je n'ai jamais vraiment rêvé de faire de la musique. Tout ce que j'ai rêvé d'avoir, je ne l'ai jamais eu de toute façon.
Ah bon ? C'était quoi ?
Moi, je rêvais d'être une mère de famille avec 12 enfants. Mon mari m'avait promis de remplir les 12 cases du livret de famille. Et je n'en ai eu qu'un. Donc, je n'ai jamais rêvé de cette vie un peu flamboyante. Non, pas du tout. Mais donc, je n'arrive pas à faire des compromis ou des compromissions.
Donc, vous avez claqué la porte.
Donc, ça ne me plaisait plus. J'ai claqué la porte. Mais en claquant la porte, quand même, j'ai emporté avec moi le patron de BMG France. J'ai réussi à le faire virer. Donc, c'était pas mal non plus.
Mais vous avez rêvé de rentrer au couvent ? Je vous imagine très mal, moi, dans un couvent, franchement.
Et pourtant, je vous dis, tout le monde m'imagine une vie que je n'ai pas. Je ne sors jamais, par exemple. Je peux rester dans...
Mais pourquoi dans un couvent ?
Ce monde, je n'ai pas l'impression d'appartenir à ce monde. Je ne trouve pas ma place, vraiment. Je le trouve très violent, je le trouve très égoïste. Je ne trouve pas vraiment ma place. Je trouve ma place quand je suis dans le village ou dans des petits endroits. Sinon, je ne sors jamais. Moi, même dans les restaurants, je ne vais pas...
La maison de Dieu, c'était plus votre place ?
Non, ce n'était pas ça du tout. Je n'étais pas pour entrer au couvent comme bonne sœur. C'était pour moi un endroit où je n'avais plus la charge de devoir gagner ma vie, etc. Je voulais juste rentrer dans un endroit où on allait prendre soin de moi du point de vue matériel, c'est-à-dire j'aurais une chambre, de la nourriture.
Oui. Assister, quoi.
Non, une chambre, de la nourriture, et moi j'aurais participé. Mais je voulais sortir de ce monde, en fait. Et c'est là que Monsieur X est arrivé.
Voilà, Monsieur X, dans les années 2000, vous allez à son bras négocier un autre virage. Vous étiez au bras idéal, si j'ose dire. Celui de l'engagement politique et humanitaire, on va en parler bien sûr. Mais du coup, je me dis que vous avez eu le temps pour les vraies choses, Kejanine. Lire, par exemple. Est-ce que vous lisez ?
Ah non.
Vous lisez pas ?
Non. Moi, j'apprends dans les gens, pas dans les livres.
Il y a des gens qui sont comme des livres, effectivement. Il y a des blancs qui sont comme des livres ouverts, apparemment.
Non, c'est pas tous les blancs, il faut pas exagérer.
Et pourquoi vous lisez pas ? C'est une vraie question, ça, sur le continent. La culture a du mal à rentrer dans le cœur de nos frères du continent.
Parce que la culture viendrait seulement des livres ?
Non, c'est vrai.
Ah ouais, d'accord. Donc,
mais quand même, il y a certains livres, c'est pas mal de les avoir lus.
Il y a certaines personnes que ça vaut la peine de rencontrer, hein, je vous assure. Justement, vous dites que Monsieur X a changé ma vie, dans le sens où il m'a fait voyager en voiture, en totale autonomie. Il a fait le Dakar plusieurs fois, qu'il a gagné d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut partir en voyage avec lui en totale autonomie sur des routes qui n'existent pas et où on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait jamais ailleurs. Et ceux-là, je peux vous dire que c'est des fameux bouquins, ces gens-là.
C'est joli. Bon, je me dis qu'au moins vous avez pu aller au cinéma récemment, puisque vous étiez, Kejanine, membre du jury du Festival de Cannes 2018, qui a décerné la Palme d'Or au film japonais Une affaire de famille d'Hirokazu Koreeda. C'est l'histoire, je redis rapidement, d'une famille pauvre, vivant grâce à la débrouille, et qui recueille un jour une petite fille dans la rue. Sans les sous-titres, ça donne ça.
もう少しさ、カレーの匂いのするもん拾ってきなよ。 كل كتابات
ساوي
ساوي ترى ما يصير دينا
Une belle scène pour un sol majeur où des parents pauvres sont en train de porter sur leur dos cette petite fille trouvée dans la rue couverte de bleu. Ils veulent la ramener chez ses parents qui sont en train de s'étriper. Extrait en sol majeur d'une affaire de famille. Est-ce que c'était votre palme d'or à vous, Kadjanine ?
Oui, vous savez que quand on est membre du jury, on a un contrat, enfin un contrat, pas signé, hein. Mais on n'a pas le droit, entre guillemets, de dire ce qui se passe à l'intérieur du jury, parce que c'est...
Même après, il n'y a pas prescription.
Non, ni avant, ni pendant,
d'accord,
ni après.
D'accord.
Mais en tout cas, c'était unanime. Ça, je peux le dire. C'était vraiment unanime. Le cinéma japonais, je l'ai découvert pas seulement maintenant. C'est un cinéma tellement beau, tellement... Pas seulement parce qu'ils ont cette culture raffinée. Non, au contraire. Ils sont beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus drôles qu'on l'imagine, parce qu'on les imagine un peu comme ça, robots. Non, c'est vraiment très chaleureux et ce film était magnifique. Mais c'est très déchirant quand même, parce que... Il y a des films qu'on aimait bien qui ne sont pas dans la liste, quoi.
Oui. En tout cas, on vous a aimé, nous, sur ce tapis rouge du Festival de
Merci.
Cannes, avec ce port de Rennes au milieu de toutes ces paillettes. Ce port de Rennes vous a permis aussi de braquer les projecteurs sur votre ennemi public numéro un, si j'ose dire, le président burundais Pierre Nkurunziza.
Nous rappelons aux Burundais et à la communauté internationale que dans le discours que nous avons prononcé lors de notre prestation de serment en 2015, nous avons dit, je cite, « Nous jurons de respecter la décision de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne ce dernier mandat que vous venez de nous accorder. » Nos ancêtres l'ont dit, un homme se retourne dans son lit, mais ne se retourne pas dans sa parole. Et ne pas revenir sur sa parole fait partie des valeurs aussi bien des militants du parti CNDD-FDD que des Burundais. En tant que visionnaire du parti CNDD-FDD, je voudrais annoncer aux Burundais et à la communauté internationale que nous ne reviendrons pas sur notre parole. Notre mandat s'achève en 2020. En ce qui me concerne, je m'engage et je me prépare à soutenir de tout mon cœur, de toute mon intelligence et de toutes mes forces le nouveau président que nous élirons en 2020.
J comme j'accuse.
Kadjanine, pour un sol majeur, on va être grave hein, tout à coup, mais que pensez-vous donc de cette déclaration du président Nkurunziza qui dit « Notre mandat prendra fin en 2020 ».
J'accuse Nkurunziza d'avoir replongé le Burundi dans la misère. J'accuse Nkurunziza d'avoir brigué un troisième mandat indu en violation totale des accords d'Arusha et de la constitution burundaise. J'accuse Nkurunziza d'isoler le peuple burundais, qui est aujourd'hui un peuple pauvre, qui meurt de faim. Il y a la famine au Burundi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accuse Nkurunziza d'avoir créé des réfugiés, d'avoir fait fuir toute une population. Il y a des centaines de milliers de réfugiés. J'accuse Nkurunziza d'avoir mis en prison des milliers de jeunes. Il y a au moins 6000 jeunes en prison aujourd'hui, d'avoir contesté ce troisième mandat. Cet homme ment et cet homme a peur. Aujourd'hui, c'est un homme aux abois. C'est un chef, soi-disant chef d'État, qui n'ose pas sortir de son pays tellement il a peur. Ils viennent maintenant de trouver une autre idée lumineuse, c'est qu'ils ferment toutes les ONG étrangères aujourd'hui parce qu'ils doivent respecter certaines règles, dont des quotas ethniques. Ça, c'est nouveau.
Quel quota ethnique hein?
Que 40, 60 ou tous, Tutsi. Il a essayé au début de la contestation du troisième mandat, il a essayé d'en faire un conflit ethnique, de dire que ce sont les Tutsi qui veulent reprendre le pouvoir. Mais ce qu'il a oublié, le peuple, c'est que pendant 10 années, comme il était dans sa tour en train de manger l'argent du pays, il a oublié de voir ce que faisaient les médias. Les médias libres, il y a eu tout un tas de médias libres qui sont nés, mais il les a perdus de vue.
C'est paradoxal. Hein?
C'est très paradoxal, mais c'est pas volontaire. Il n'a pas réalisé ce qu'il faisait. Mais grâce à ça, ces médias libres, ces radios ont, entre guillemets, instruit le peuple burundais, sur leurs droits, sur le... on reculait cette barrière entre les ethnies. Et donc, quand il est arrivé le moment d'utiliser ce levier ethnique, le peuple burundais n'a pas bougé. Mais par contre, les médias ont été brûlés, tous les journalistes ont fui. Ça aussi, j'accuse de ça, Nkurunziza. Mais...
Donc comment vous interprétez cette phrase lorsqu'il dit « notre mandat prendra fin en 2020 »
Mais il n'a pas droit à ce troisième mandat, donc je ne peux pas parler de quelque chose qui pour moi est illégitime. Alors, il y a quand même quelque
par
chose...
ailleurs, il est devenu, il y a quelques mois, guide éternel de son parti.
Moi, je ne discute pas avec les fous, je sais ce que je veux dire.
Pourquoi vous dites que Nkurunziza a une espérance de vie de descente d'avion ?
Non, c'est moi qui ai une espérance de vie de descente d'avion en allant au Burundi. Moi, je ne peux pas aller au Burundi, là. Je ne peux pas rentrer chez moi. C'est moi qui ai une espérance de vie de descendre d'avion. Si je descends de l'avion, on m'arrête, ça c'est certain. Et on m'accusera de ce qu'on veut, je ne sais pas moi, de trafic de drogue, d'armes, que sais-je. Je ne peux pas aller au Burundi, je ne suis pas la seule.
Mais vous êtes prête à aller jusqu'où pour qu'il s'en aille ?
En fait, l'idée première, déjà, c'est de faire en sorte que le Burundi ne sorte pas de la carte, qu'on ne l'oublie pas, ce qui est le cas. Le Burundi est toujours en première ligne des discussions aux Nations Unies, à l'Union Européenne. Il y a des sanctions de l'Union Européenne sur le Burundi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de devises qui rentrent pour lui. Mais les aides continuent à rentrer via les ONG. Et je pense, moi, personnellement, que ça n'a rien à voir avec les quotas ethniques. Parce qu'il est là en train de dire les Hutus, les pauvres Hutus ont été tués. Oui, bien sûr qu'ils ont été tués, les Hutus. Mais pourquoi pendant 10 ans? Il s'en est pas soucié. Pourquoi il n'a pas mis ça en avant? Il était au pouvoir. Aujourd'hui, il n'a plus aucune latitude. C'est un homme aux abois, c'est un homme qui a peur.
Alors, peut-être que c'est le moment, Kajanine, d'entendre le prix Nobel de la paix 2018. Monsieur Denis Mukwege, vous mettez votre main sur votre cœur. Denis Mukwege, qui partage, on le sait, son prix avec Nadia Mourad, ils sont récompensés tous les deux pour leurs efforts qui consistent à mettre fin aux violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Il était au micro de Claire Hédon, qu'il l'avait rencontré en 2015 à Bukavu, donc en RDC, où 1600 femmes par an étaient traitées à ce moment-là dans son hôpital de Panzi, avec cette question: qui sont les auteurs de ces crimes sexuels?
Il y a une évolution que nous pouvons constater dans nos registres, c'est qu'au début, dans les années 2000, c'était beaucoup plus les armées étrangères qui commettaient ces viols. Et progressivement, en fonction des groupes armés en place, on voit une certaine évolution. Et aujourd'hui, en fait, tous les groupes armés qui sont à l'est de la République démocratique du Congo commettent ces viols, y compris même les forces armées de la République démocratique du Congo, la police et j'en passe. Aujourd'hui, le viol est utilisé partout comme une arme de terreur. Et en République démocratique du Congo, il est de plus en plus parlé de viols par les civils. Mais la question qu'il faut poser, qui sont ces civils? Puisqu'en fait, la guerre officiellement a pris fin en République démocratique du Congo en 2002. Mais on a fait une démobilisation. Il y a des jeunes qui ont regagné leur famille. Mais après avoir passé des années dans des groupes armés où ils ont subi un lavage de cerveau, et ces lavages de cerveau, malheureusement, lorsqu'ils rentrent dans leur village, il n'y a pas une prise en charge psychologique suffisante pour leur permettre de réintégrer leur communauté sans être agressif ou à en fait commettre le même acte sur la population.
Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, au micro de Priorité Santé en 2015. Cette voix en sol majeur... vous aide aussi dans votre combat à vous, Kajanine?
Quand j'ai eu l'annonce de ce prix Nobel qu'on attend depuis longtemps, parce qu'il est sur la liste depuis des années, Dr Mukwege, et enfin, il a ce prix Nobel, mais ça veut dire aussi qu'à travers ce prix Nobel, les victimes de viols, armes de guerre sont elles aussi reconnues. Le Dr Mukwege, c'est un grand homme, et moi j'ai la chance d'avoir un filleul qui s'appelle le Dr Benjamin Kadière, qui va opérer avec le docteur Mukwege.
Opérer des femmes qui ont été violées?
Opérer des femmes là-bas, opérer des femmes régulièrement. La dernière fois, mon filleul est parti 6 mois. Donc ils sont vraiment très proches, très amis. Ils font partie de l'hôpital Panzi aujourd'hui. Quand vous entendez qu'il y a des patientes de 1 an, de 3 ans, des bébés qui qui ont été violées. Ça, ce n'est plus de la perversité aussi ignoble soit-elle. C'est vraiment pour anéantir les gens. Parce que le viol qui est pratiqué aussi au Burundi par les milices de Nkurunziza, les Imbonerakure.
Oui, qui sont les Imbonerakure
Les Imbonerakure, ce sont les milices. Comme tous les dictateurs, ils ont leur milice parallèle qui fait toutes les sales besognes. Voilà, peu importe. Donc ça aussi, c'est quelque chose contre quoi je lutte. J'en ai beaucoup parlé à Cannes parce que j'étais entourée de Kate Blanchett qui est à l'origine de MeToo. Donc c'était vraiment aussi un endroit pour pouvoir parler de viol, armes de guerre. Et quand vous entendez les récits de ce qui se passe au Congo, le docteur Mukwege, on a failli le tuer. Il est parti, il est revenu parce qu'il ne peut pas abandonner ce combat. Parce que si lui s'en va, qu'est-ce qui va se passer? La jeune femme qui a reçu le prix...
Oui, il s'agit de Nadia Mourad.
Alors Nadia Mourad, elle a aussi vécu le viol dans le sens de l'arme de guerre d'une certaine façon, où les femmes sont des esclaves sexuelles, qu'on se repasse.
Elle a été otage des groupes islamiques.
Oui, mais c'est aussi des combattants. C'est aussi une façon d'anéantir David et d'anéantir l'ennemi. Parce que quand ils arrivent dans un village et qu'ils violent une maman devant son mari ou devant ses enfants, c'est le tissu social qui explose pour des générations. C'est fini, la femme est bannie. Il y a tout un accompagnement psychologique à l'hôpital Panzi qui a une place énorme. Et c'est extraordinaire que cet homme ait enfin reçu ce prix.
À quel moment de votre vie confortable, j'ai envie de dire, Kadjanine, vous avez décidé de vous lever, vous, pour le Burundi?
Je me suis levée pour le Burundi le jour où on a commencé à tirer à balles réelles sur les manifestants. Alors là, je me suis levée, je ne me suis plus jamais assise et je ne me resterai pas.
F comme famille d'élection.
Parce que quand on fait sa valise comme vous, très tôt et très loin de sa terre natale, souvent on se bricole un nouvel arbre, un nouveau nid aussi. Vous êtes rayonnante aujourd'hui devant nous, Kadjanine. Mais vous dites, je cherche encore les miens.
Oui, je cherche encore les miens parce que ce monde, comme je vous l'ai dit déjà, il est trop dur pour moi. Il est trop mercantile. Tout est toujours... Quand vous pensez que 1% de la population mondiale est aussi riche que les 99% restants, waouh. C'est-à-dire que quelquefois, je crois avoir trouvé les miens et puis on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a quand même une question d'intérêt. Non, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de se dire que la famille, c'est tout le monde. La famille, c'est pas seulement mon frère, ma soeur. Par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer, je sais pas, les anciens, c'est-à-dire Mama Winnie Mandela, Nelson Mandela. J'aurais aimé vivre en leur temps, j'aurais aimé être avec eux.
Vous voulez dire que notre monde aujourd'hui ne produit pas une génération à la hauteur d'un Mandela et...
Mais c'est-à-dire que les Mandela d'aujourd'hui, ils existent. Je les ai rencontrés à Dakar.
D'accord, alors on va y aller à Dakar. L'heure n'est plus aux lamentations de salon et aux complaintes fatalistes face aux coupures d'électricité. Nous refusons le rationnement systématique imposé à nos foyers. La coupe est pleine. Ça, c'est ce que déclaraient en 2011 les rappeurs et journalistes fondateurs du mouvement contestataire Yann Amar, donc au Sénégal, dont Fadel Barro est l'éminent leader.
Le mouvement Yann Amar,
le mouvement Yann Amar, à chaque moment, quand le peuple a eu besoin de lui, il a répondu présent. J'ai l'habitude de dire que ce sont les Sénégalais qui activent Yann Amar.
Yann
Amar n'est pas ma propriété privée. Elle n'est pas non plus la propriété de Tchat, Fou Malade ou de ceux qui l'animent. Yann Amar est un instrument du peuple sénégalais qui l'active quand il en a besoin pour arrêter le pouvoir. Il faut que les gens sachent que l'activisme, c'est comme la politique. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas un art. Il s'articule et s'oriente tous les jours en fonction de la réalité locale.
L'activisme s'articule, s'oriente et se réoriente, comme la politique, tous les jours en fonction de ce qui se passe dans ce pays. Tout en nous,
ces activistes s'efforcent chaque jour à ce que les préoccupations du peuple soient prises en charge par ceux qui sont au pouvoir. C'est cela notre quotidien.
Les larmes aux yeux de Kadjanine en écoutant Fadel Barrault, je donne l'image comme ça. Votre forme à vous de contestation, Kadja, vous direz qu'elle se situe comme ça entre hier avec une Myriam Makeba et aujourd'hui avec une figure contestataire comme Fadel Barrault du mouvement Y'en a marre.
Vous savez, en juillet, il y a eu cette université, comment ça s'appelait un Québec, populaire de l'engagement citoyen, qui était organisée par Y'en a marre à Dakar, qui réunissait les mouvements citoyens d'Afrique.
Vous y étiez, non ?
J'y étais, j'ai eu l'honneur et la chance d'être invitée. Mais c'est une génération après moi, la plupart pourraient être mes enfants, et je suis désolée. Ces jeunes gens passent leur vie en prison. Ces jeunes gens sont non-violents. Ils ont décidé que les choses doivent changer. Ils sont au Congo, ils sont au Togo, ils sont au Sénégal, ils sont au Burkina Faso, etc., au Burundi. Et ces jeunes gens ont décidé d'abandonner leur jeunesse et leur insouciance dans l'espoir de changer les choses. Et ils les changent. Ils les changent, les choses. Les choses changent malgré les difficultés. Ils sont toujours debout. On les met en prison. Et en fait, finalement, ceux qui les mettent en prison les mettent en lumière. Et là je me dis que de nouveau, entre Myriam Makeba, Nelson Mandela, Winnie Mandela, et ces jeunes gens de mouvement Y'en a marre, du ballet citoyen, de Filimbi, de Sindoumoudja. J'ai l'impression qu'entre les deux, ma génération ne s'est pas tellement préoccupée de ce qui se passait sur le continent. J'ai l'impression qu'on a été une génération un peu paresseuse qui avait l'espoir de construire une vie, c'est-à-dire avoir la maison, la voiture, tout ça. J'ai pas l'impression qu'on était une génération consciente, comme on l'appelle. La nouvelle génération...
C'est même... pour ça les larmes ?
Mais ce qui me... Ça me touche d'entendre Fadel, parce que j'étais avec eux. Ça me touche d'entendre ces jeunes gens, parce qu'ils se sacrifient, ces jeunes gens-là. Ces jeunes gens ont mis leur humanité au service des autres. Mais je parle même des simples gens. Je veux dire, vous rencontrez quelqu'un, il y a toujours quelque chose à vous prendre, ou s'il peut passer devant vous, il passe devant vous. Il y a une espèce de déficit d'humanité. Alors, chez cette nouvelle génération, j'ai l'impression d'avoir trouvé les miens, dans la mesure où ils sont humainement... dédié à l'autre.
En sol majeur @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Kadjanine, un a cappella, un hippopotame, une palme d'or et un cœur burundais. Est-ce qu'on finirait par un souvenir ou par un rêve, c'est-à-dire par Bob Marley ou par John Lennon?
Par Bob Marley, Bob Marley. Could You Be Love, c'est un morceau qui m'a sauvé la vie.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris, ça doit être délicieux de nous écouter dans un des villages du continent. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec Slimane Dazi. À la semaine prochaine.